Non, mais c'est très joli en plus, le volleying comme il arrive. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, de la course des potentiomètres.
On a parlé de l'emplacement.
Ouais, mais on n'a pas parlé de... De la relation du geste. Bon, ça, c'est sur le plan gestuel, c'est très important, cette proximité du volume.
Bien sûr.
Mais il y a aussi la course, la façon dont le son arrive. Est-ce que le son se déploie immédiatement ? Ou est-ce qu'il arrive progressivement, ce qui fait que dans notre interaction avec l'ampli, on a aussi la saturation dans les pédales qui apparaît à divers niveaux.
Bien sûr.
Et
bah, regarde rien que là-dessus. Ou même en restant à fond.
C'est là que je trouve qu'il y a une qualité dans ces instruments, c'est qu'on baisse un volume, mais on ne perd pas en qualité sonore. En tout cas, on a une qualité sonore qui reste, qui est justement de qualité. On n'est pas avec quelque
une
chose
qualité
qui...
de qualité.
Une
donc.
Qualité de qualité, ouais. Mm-hmm. Une qualité de luxe. Une qualité...
Tu qualifierais cette qualité de qualité.
De qualité, voilà. Commencer, baisser. Et effectivement, on a cette caractéristique. Bon, on est branché sur un bon ampli, mais lorsque vous usez de potentiomètre et que vous savez que vous pouvez les utiliser sur quasiment toutes leurs courses, sans vous dire que vous allez avoir quelque chose qui musicalement n'est pas exploitable, hein, c'est là que c'est gênant. Et mm-hmm. tout ce que tu as montré quand tu as joué entre la maîtrise des tirés de corps, la sonorité et puis cet aspect d'électronique, justement, on est dans des instruments qui... ont des propriétés qui musicalement inspirent.
Et tu remarqueras aussi un truc rigolo dont on n'a pas encore parlé, c'est ça.
Hein ?
Voilà, d'où l'invention en fait de tes micros-là, qu'on appelle humbucker parce qu'ils enlèvent le hum, le bruit de fond dégueulasse qu'on peut avoir avec des simples, et d'où aussi les positions intermédiaires. Voilà. Qui fait que le son disparaît complètement. Enfin, le bruit de fond disparaît complètement.
Tu parles du bruit de fond, des microphones. Le signal électrique va être amplifié éventuellement par l'ampli, mais il y a aussi toutes les pédales. Alors, il y a un moment où, où peut-être cette notion de bruit de fond, dès lors que soit on utilise une pédale de gate qui va faire que dès qu'il y a des parasites assez forts, mais que le niveau global est assez faible, ça va couper le signal complètement. Ou si le musicien use beaucoup du potard de volume, justement pour ne pas laisser émerger tous ces sons indésirables. Sur scène, c'est peut-être pas si gênant que ça au final, sauf si on capte la radio, peut-être, le voisin.
Ça, et puis ça dépend du système électrique sur lequel tu es branché. Mmh. Si la salle a aussi des lumières ou un frigo sur le même circuit électrique, ça peut être assez gênant. Tu peux même carrément avoir un bruit de fond, même dès que tu allumes l'ampli, sans même passer par la grade. Donc effectivement, ça dépend, mais c'est vrai que j'ai souvent eu ce problème, en particulier avec des P90, encore plus qu'avec des micros de Strat. Et du coup, c'est vrai que ça donnerait presque envie de passer au humbucker, des fois, rien que pour pas subir le bruit de fond. Et puis après, on se rappelle que les humbuckers sont des sous-micros.
Justement, donc je suis très content d'avoir sur cette sur-guitare des sous-micros. Tout à l'heure, on avait avec François une Les Paul avec les P90. Là, on a la version de la Les Paul avec des humbuckers. Tu peux nous en parler,
Bah, là,
Julien?
pour le coup, en fait, c'est une réédition 59, une True historique, qui est en Lemon Burst. Donc, en fait, pour la petite histoire, à l'époque, c'est-à-dire en 58, 59, 60, hein, les 3 années de production de la Les Paul Standard Sunburst, il y avait une seule couleur disponible, c'était le Cherry Sunburst, qui est donc le burst vraiment traditionnel avec le rouge. Et en fait, avec le temps, vu les couleurs, enfin vu les peintures qu'ils utilisaient, le rouge était le premier à partir et le plus sensible aux UV. Et du coup, quand on laisse une Les Paul Cherry Sunburst assez longtemps au soleil, elle devient comme ça. Et donc on appelle ça le Lemon Burst, tout simplement parce que le jaune ressort plus. L'une des Lemon Bursts les plus célèbres, c'est évidemment celle de Gary Moore, qui est entre les mains d'ailleurs de Kirk Hammett en ce moment, et qui doit se sentir bien triste entre les mains de Kirk, après être passé par celle de Peter Green et Gary Moore. Donc pour la petite histoire, ouais, ces micros-là, c'est des répliques de PAF. Les PAF qui sont donc les Patent Applied For, en gros donc en attente de brevetage, puisque tout simplement ils avaient déposé la demande de brevet avant de les construire, et au moment de les construire ils n'avaient toujours pas le numéro de brevet, et donc ils ont mis des petits autocollants Patent Applied For, et c'est devenu les fameux PAF. Et le caractère des PAF, c'est un niveau de sortie assez léger. Là, on entendait que tu avais un son finalement moins saturé que moi, même si tu étais un peu moins poussé au niveau volume, mais voilà, ça peut faire des sons clairs très beaux. Et une ouverture dans l'aigu qu'on n'a pas du tout avec les micros des années 70. Après, évidemment, après le PAF, ils sont passés à d'autres types de micros, puisqu'il y a un moment où ils ont quand même fini par avoir leur numéro de brevet, mais les caractéristiques des micros sont restées à peu près identiques jusqu'au milieu des années 60.
Donc la guitare que tu as, c'est une Strat. En quoi est-elle différente de celle que j'ai eue tout à l'heure?
Alors, c'est ce qu'on appelle une Strat type 50, en l'occurrence 56, ce qui en général veut dire deux choses, beaucoup plus, mais pour simplifier. En termes de touche, on a une touche érable et pas une touche palissandre comme les types 60. Donc, la touche palissandre ayant été introduite au milieu de 59.
9.
Ce qui veut dire que début 59, on avait encore ça, fin 59, c'est déjà la touche palissandre. Et puis ça veut dire un manche un peu plus conséquent, une forme de manche qui tient bien dans la main, qui est un peu plus grosse que les manches 60. Et là, pour le coup, évidemment, ça peut être un profil très différent selon qu'on parle d'une Strat 54 ou 58, qui sont des profils très différents. Puis après, en général, les micros 50 sont différents des micros 60. Tout petit peu plus agressif en 50 qu'en 60, même si les micros 60 ont un creux dans le médium qui peut plaire ou pas selon l'ampli sur lequel on se branche. Et là, celle-là est chouette parce qu'elle a un érable flammé assez spectaculaire à l'arrière de la touche.
Chose que Léo Fender ne cherchait pas, parce qu'il faut comprendre que toutes ces guitares étaient fabriquées selon une logique industrielle.
Bien sûr.
Et le fait de rechercher un stock de bois en érable flammé qui est moins répandu occasionne des coûts et aussi une sélection. Ceci induit des process de fabrication un peu modifiés. Et donc, si vous avez des guitares d'origine en érable flammé, eh bien c'est un coup de bol si vous voulez, sauf que ce n'est pas parce que le manche est en érable flammé qu'il va mieux sonner dans la relation avec le corps et les micros que s'il n'était pas flammé.
Et après, c'est une guitare anachroniquement rigolote, puisqu'elle est dans une custom color, c'est-à-dire que chez Fender, ce qu'on appelle les custom color, c'est tout du moment que c'est pas sunburst ou blond. Et là, pour le coup, c'est des teintes supplémentaires qui ont été introduites en 58. Et du coup, en 56, normalement, cette strat devrait être soit sunburst, soit blonde. Et là, en l'occurrence, c'est un magnifique Daphné Blue, un faded Daphné Blue. Donc, Daphné Blue, mais un peu moins pétant que le Daphné Blue neuf, même si la guitare est parfaitement neuve, évidemment. Mais donc, du coup, c'est un peu comme si le mec qui avait commandé cette guitare était allé à l'usine Fender en 56, avait vu un pot de peinture sur des prototypes et avait dit, bah non, la mienne, je la veux comme ça. Et du coup, ça aurait donné un de ces monstres, puisque à partir du moment où, comme tu dis, c'était une production à logique industrielle, mais ça restait des chiffres assez réduits de production. Et il y avait toujours une logique de rapport aux artistes qui était très importante pour eux. Et du coup, on a des exceptions à toutes les règles possibles, que ce soit chez Fender ou chez Gibson.
Le mot de la fin, on a vu deux autres versions, Strat et Les Paul. Ça nous a permis d'aborder d'autres aspects, hein, parce que chaque interlocuteur est différent. Vous voyez bien que ces instruments sont complémentaires, même si dans notre discussion, on avait l'air de dire que le musicien est très important dans le rendu sonore, ce qui est vrai. Mais il y a quand même des caractéristiques et des propriétés qui font que ces instruments sont différents, ne serait-ce que dans le confort, la façon de les jouer, de les ressentir. Il n'en demeure pas moins que ces deux instruments, s'ils existent encore aujourd'hui, c'est qu'ils ont des qualités qui sont appréciées par de très nombreux musiciens encore aujourd'hui.